Bonjour à tous, merci d'abord. Merci pour cette invitation parce que c'est un sujet, vous allez voir, qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet que j'aime profondément et sur lequel je bosse depuis pas mal d'années maintenant. Alors, je lance mon temps de parole. Que vous dire ? D'abord, je voudrais que vous sachiez d'où je parle. Pour moi, c'est très important. Donc, je suis une fille de l'Est. J'ai deux enfants. J'ai fait des études de médecine et des études de sciences politiques, mais c'était il y a bien longtemps. Et j'habite pas très loin. J'habite à Montrabé, donc pas très loin. Mais je travaille beaucoup dans toute l'Europe. Et que vous dire ? J'ai eu trois vies. Je dis toujours ça. J'ai eu d'abord une première vie où j'ai vraiment fait de la médecine hospitalière. J'ai fait même de la cancérologie pendant toutes mes premières années d'exercice professionnel. Et là, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Voir des gens mourir tous les jours, j'ai vu vraiment mourir beaucoup de mes patients. J'avais 26 ans à l'époque, 27 ans. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut faire autre chose, il faut aller faire de la prévention. Et donc, je suis allée me former en prévention, je suis allée au Canada, aux États-Unis, en Suède, pour voir un petit peu comment on devait faire de la prévention. Et là, j'ai découvert un truc absolument incroyable. J'ai découvert en fait que la prévention, c'était 80% de communication. Donc je me suis dit, faut que j'apprenne à bien communiquer. Donc je suis encore allée me former, j'ai appris à faire de la communication, je suis devenue un expert de la communication santé. Comme disent mes enfants, ça c'était au siècle dernier. Et j'ai fait de la prévention de la santé physique. Prévention du cancer, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention du diabète, prévention, enfin tous les grands types de prévention. Je crois pouvoir dire que j'ai travaillé sur tous les grands sujets de prévention. Et puis fin des années 90, début des années 2000, j'ai vu apparaître les premiers burn-out, les premières dépressions graves, les premières problématiques graves de santé mentale au travail. Et là, je me suis dit, nos médecins du travail ont mis 70 ans pour inventer les outils de la prévention de la santé physique. Il faut qu'on invente la prévention des outils de la santé mentale, pour protéger notre santé mentale. Voilà en quelques mots, et aujourd'hui donc, je suis chef d'entreprise. Je dirige une petite entreprise, on est 7 salariés, on travaille avec un réseau de 250 partenaires. La société s'appelle Better Human. Et notre métier, c'est justement de remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Et je peux vous dire que c'est un vrai combat sur lequel on a pris quelques coups et c'était pas facile au début. Mais je terminerai mon intervention en vous donnant plein de petites solutions et d'optimisme pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est en train de bouger. Et de bouger vraiment dans les organisations. Mais avant ça, je vais essayer de vous faire une présentation en deux grandes parties. La première, c'est le constat. C'est le constat que tout le monde fait. Alors, je vais aller assez vite sur le constat parce que vous allez voir, je ne voudrais pas qu'on y passe trop de temps. Le constat sur comment la relation humaine est mise à mal réellement aujourd'hui dans les organisations. Que ce soit des entreprises, des associations, que ce soit dans le public ou dans le privé, absolument partout on retrouve les mêmes problèmes. Notre métier aujourd'hui, chez Better Human, c'est justement d'aller analyser ça dans les organisations. D'analyser, de mettre de la mesure, d'avoir des outils et des méthodes pour faire bouger les lignes dans les organisations. Donc je vais vous dire tout ce qu'on constate, tout ce qu'on mesure aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment pour moi extrêmement important. Donc la relation humaine est mise à mal pour plein de raisons. Les trois principales. La première, c'est que le monde du travail a complètement changé. Je vois, pardonnez-moi, pas mal de têtes blanches ici. Et j'en ai plein aussi, mais je les cache. Et je peux vous dire que le travail a radicalement changé par rapport à l'époque où vous deviez travailler. Mais radicalement. Il a même changé dans les 10 dernières années et dans les 5 dernières années de façon impressionnante. La compétition mondiale, bien entendu, est là. Donc une compétition extrêmement dure, ce qui fait que l'ensemble des entreprises se sont financiarisées. Hein, parce que bah, aujourd'hui, effectivement, la petite boîte de Toulouse ou de même de n'importe où, elle est mise en compétition avec des Chinois, des Sud-Américains, c'est absolument partout. Donc cette mondialisation, et puis le fait qu'on a aujourd'hui aussi cette financiarisation avec plus tellement d'objectifs à long terme. On n'est que dans du court-termisme. Et ça, c'est aussi un point essentiel. Parce que tout va beaucoup plus vite. La temporalité est essentielle. Tout s'est accéléré. Donc ça, pour moi, c'est les deux éléments clés. Financiarisation et accélération, si je puis dire, de l'ensemble des process. Donc ça, c'est le monde du travail qui a changé. Et puis le travail lui-même a beaucoup changé. Le travail n'est plus le même. On est dans un travail, comment je dirais, on doit résoudre des problèmes beaucoup plus complexes, là aussi dans un temps très court, et on a besoin beaucoup plus d'intelligence collective, de coopération, pour résoudre les problèmes auxquels on est tous confrontés. Or, les formations que reçoivent encore aujourd'hui les jeunes, même si c'est un peu moins vrai maintenant, sont encore des formations où on essaye de donner de l'excellence à chaque individu. Je donne toujours cet exemple en disant au XXe siècle, on était à l'époque du strong, c'est-à-dire il fallait être fort, grand, intelligent. Et aujourd'hui, au contraire, il faut qu'on soit dans le collaboratif. Mais tous ceux qui ont les manettes aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui dirigent, ont été formés dans l'idée de l'homme fort. On est encore un des rares pays au monde à avoir une structure de décision très autocratique. En gros, c'est quoi ? C'est le chef qui sait, c'est le chef qui décide et c'est le chef qui a raison. D'accord ? Et ça, bah aujourd'hui, ça ne marche plus. Parce que les jeunes générations, elles ne supportent pas ça, d'abord. Et puis, elles ont bien compris qu'il fallait travailler en réseau, qu'il fallait travailler en coopération pour aller beaucoup plus vite. Donc, on travaille plus du tout de la même façon. Et on a des générations différentes dans l'entreprise aujourd'hui. On a entre 3 à 4 générations. Et c'est la première fois qu'on a autant de générations différentes dans une organisation. Donc, ça change aussi la façon de travailler. Autre élément très important aussi dans le monde du travail, ce sont les outils. On travaille tous avec des outils aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information là, et de la communication, qui sont effectivement très, comment dire, absolument géniaux. Je vous assure que c'est très utile, mais en même temps, la problématique, c'est qu'on est hyper connectés, tous en permanence. Et comment est-ce qu'on fait avec cette hyperconnexion ? Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, quand on dit le monde du travail, le travail a changé, c'est que le travail, il a empiété sur la vie personnelle. Il y a une porosité très grande aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Dans les deux sens d'ailleurs. Moi, il y a 20 ans, j'aurais jamais osé aller prendre un billet d'avion perso dans mon bureau. Aujourd'hui, pour toutes les jeunes générations, ça les gêne absolument pas. Ils prennent les rendez-vous pour leurs enfants, pour etc., tout ça au bureau. Ben oui, parce qu'on leur demande tellement d'être disponibles aussi quand ils sont dans leur vie personnelle, qu'ils pensent que c'est tout à fait normal d'être aussi, d'avoir un peu d'accès à sa vie personnelle sur son lieu de travail. Alors ça, c'est vrai que ce sont des petits éléments, hein, mais qui sont extrêmement importants, cette hyperconnexion. Dans le monde du travail, ce qui a changé aussi, et dans le travail, c'est qu'on vous en demande toujours plus, avec moins de gens. Il y a eu beaucoup de licenciements, je peux vous assurer. Et avant, pour une charge de travail définie, on avait 3-4 personnes. On en a viré un, puis on en a viré deux. Mais on n'a pas segmenté la charge de travail. Au contraire, on en a rajouté. Et donc, on finit par laisser à des gens des charges de travail extrêmement importantes. Et on finit par leur dire, bah oui, mais vous êtes un incompétent, puisque vous n'arrivez pas à faire votre job. D'accord ? Donc ça aussi, le fait qu'il y a moins de monde pour faire le job... Bah, c'est aussi un élément très concret qu'on constate absolument partout. Je pourrais rester très longtemps sur tous ces sujets-là, mais je pense que je vais aller un petit peu plus vite pour vous expliquer aussi que les attentes des salariés ont profondément changé. Et là, j'ai déjà dit un petit mot des nouvelles générations, mais même, j'allais dire, même certains baby-boomers qui étaient prêts à investir beaucoup dans le travail. Et pour beaucoup, l'époque, ce que j'appelle l'époque des baby-boomers, c'est-à-dire les gens des années 60, sont des gens qui ont beaucoup investi dans leur job. Ils voulaient réussir dans la vie. Et la jeune génération, elle, elle veut réussir sa vie. Voilà. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Eux, ils veulent un bien plus grand équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Ils ont vu leurs parents souffrir de ça. Et ils disent, moi jamais. Donc concrètement, effectivement, ils veulent un travail en plus intéressant. Donc ils veulent ne pas perdre de temps, ils veulent un travail intéressant et ils veulent avoir un équilibre vie pro-vie perso. Et après tout, ils ont raison. C'est peut-être eux qui ont raison, c'est peut-être eux qui vont révolutionner, vous allez voir, le monde du travail demain. Et ils sont en train de le faire, hein, je peux vous assurer. Quand je disais aussi, ils veulent un travail intéressant, ça c'est vraiment compliqué hein, pour certaines boîtes, parce qu'il y a des entreprises, ben voilà, des fois il y a du travail répétitif à faire. Et ils ne supportent plus le travail qui n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors c'est vrai qu'il y a les robots qui vont arriver, hein. Ils sont déjà là dans pas mal d'industries, on travaille beaucoup dans des usines, nous. Donc les robots arrivent à vitesse grand V. Et à la limite, tant mieux, ce sera un travail moins pénible. Mais alors quelle est la place de l'homme ? Où est-ce qu'on va mettre l'homme avec vis-à-vis des robots ? Il y a un numéro spécial en ce moment de l'Harvard Business Review en traduit en français qui travaille beaucoup là-dessus. On a une grosse réflexion là-dessus. Et nous, on accompagne aussi aujourd'hui des organisations sur ces vraies questions. Donc là, vous voyez, eux, ils veulent le bonheur au travail, les salariés, les jeunes. Et puis les générations du dessus se disent, bah oui, nous on a beaucoup beaucoup donné et nous aussi. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Donc le constat que je fais au final, et c'est pas moi qui le fais, vous allez voir, c'est des chiffres que je vais vous donner, c'est que dans les organisations aujourd'hui, on a deux solutions. C'est le combat ou la fuite. Le combat parce que d'un côté, on a 25% des salariés qui mettent leur santé en danger. 25%, ça veut dire quoi ? C'est pas qu'ils sont tous malades, mais 25% qui mettent leur santé en danger, qui se mettent à risque. À risque de quoi ? De troubles musculo-squelettiques d'abord, avec des douleurs très invalidantes. Première cause de maladie professionnelle en France. Pour se remettre en perspective, il faut savoir qu'en fait, les accidents du travail ont beaucoup diminué hein, au XXe siècle. Aujourd'hui, on voit une montée très très forte, en revanche, des maladies professionnelles, dont les troubles musculo-squelettiques, dont les dépressions, énormément de dépressions. Et la troisième, qui est un vrai fléau aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires précoces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ça. Ce sont des accidents vasculaires cérébraux chez des hommes de 42, 48, 52 ans. Un exemple que je donne souvent, parce que je le connais bien, on a travaillé ensemble, c'est Christian Streff, l'ancien président de Peugeot Citroën. Il a été président d'Airbus, il a dirigé des entreprises dans le monde entier. Et bien lui, il a fait son AVC à 52 ans dans son bureau, au siège social de PSA. Alors juste pour vous remettre en mémoire, l'accident vasculaire cérébral, c'est quoi ? Quand j'étais un jeune médecin, l'accident vasculaire cérébral, ça touchait uniquement, j'allais dire des personnes âgées, mais très âgées, hein, plus de 85, 90 ans. Et on disait, la mamie, elle a fait une attaque. Vous savez ? C'était ce qu'on disait dans les campagnes. Elle a fait une attaque, elle se retrouvait hémiplégique, effectivement, mais elle avait 85 ou 90 ans. Eh bien, aujourd'hui, ça touche de plus en plus des gens jeunes. Les trois derniers AVC dont on m'a parlé, là, c'est la même histoire. C'est vraiment trois hommes. Alors, ça touche effectivement là plus les hommes. Après des très grosses réunions où il y avait beaucoup de pression, ils descendent pour reprendre leur voiture dans le parking et ils font leur AVC dans leur voiture dans le parking. Trois histoires identiques. On fait aussi beaucoup plus d'accidents vasculaires, d'infarctus du myocarde le lundi matin. Vous savez pourquoi ? Stress de reprendre le travail. Et je vais vous faire sourire, mais j'étais dans l'avion lundi matin, entre le Toulouse-Paris, et bien il y a eu un infarctus dans l'avion lundi matin. On a eu trois quarts d'heure de retard parce qu'il avait fallu effectivement ramener la personne. Donc la personne a été prise en charge, donc tout s'est bien passé. Mais vous voyez, on était un lundi matin, exactement. Voilà. Et on a des belles études là-dessus, hein, aujourd'hui, qui démontrent vraiment tout ça. Non, c'est. Il y en a qui se reposent effectivement le lundi matin. Mais en tout cas, c'est le stress de reprendre le travail, c'est tout. Et le stress au travail, vous allez voir, le stress au travail, c'est vraiment un des plus grands facteurs de risque aujourd'hui. C'est beaucoup plus important, par exemple, que le cholestérol, en termes de facteurs de risque indépendants. Donc, je vous disais, troubles musculosquelettiques, dépression, maladie cardiovasculaire précoce. Et puis j'allais dire aussi tout ce qui est infection à répétition. Des infections à répétition, mais des infections graves, hein, des sinusites chroniques, des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser. Pourquoi ? Parce que le stress touche en premier notre système de défense, notre système immunitaire. Donc tout ça est très logique. Et puis évidemment, on a aussi les fameux burn-out. Alors attention, parce que le burn-out, on en parle beaucoup. Peut-être même un peu trop à mon goût sur le plan du fait que ce terme est utilisé de façon un peu à tort et à travers aujourd'hui, parce qu'un burn-out, c'est vraiment une maladie grave. C'est pas juste j'ai un surmenage, je m'arrête pendant 2 ou 3 mois. Non. Un burn-out, c'est vraiment une rupture totale du ressort qu'on peut avoir. Le cerveau n'est plus capable de donner des ordres au corps. Donc on est dans un état extrême quand on en arrive en burn-out. Ça, c'est important. Et en moyenne, un burn-out, c'est minimum 8 à 9 mois d'arrêt, minimum, voire 1 an, voire 2 ans. Et les gens qui ont fait un burn-out, il y en a un tiers qui ne pourront plus jamais retravailler. Donc c'est pas... Voilà. Je trouve qu'on utilise trop ce terme-là. En revanche, ce qui est bien, c'est que quand on commence à faire connaître bien cette maladie, on essaye d'identifier plus tôt les gens. Mais c'est très compliqué. Parce que les gens qui font un burn-out, ils sont dans le déni. Ils adorent leur job, c'est des perfectionnistes, c'est des gens qui sont très impliqués dans leur boulot. Et ils finissent effectivement par exploser en vol parce qu'ils travaillent trop. Déjà, il y a un surmenage en termes de quantité de travail. Donc, beaucoup de travail. C'est-à-dire, concrètement, c'est quelqu'un qui part au bureau, il est 6h30, 7h, il rentre, il est 22h, pour pas dire plus tard encore. Et là, bah, il a plus le temps d'avoir une vie de famille parce qu'il voit pas ses enfants. Hein, donc plus de vie familiale, plus de vie amoureuse, plus de vie sociale, parce qu'on n'a pas le temps d'aller au théâtre, ni au cinéma, ni de voir quoi que ce soit. Donc on commence par se rompre, enfin comment dire, il y a une vraie rupture de lien avec sa vie familiale et personnelle. Petit à petit, il y a une rupture de lien aussi avec la vie professionnelle, c'est-à-dire que même avec les collègues, on n'arrive plus à se parler. On est complètement, j'allais dire, renfermé sur soi-même. Ce sont des gens qui n'ont jamais le temps d'aller prendre un café, ni même d'aller déjeuner avec des collègues. Donc ils se marginalisent. Et au final, moi je dis souvent que pour moi le vrai burn-out, c'est la rupture du lien avec lui-même. C'est-à-dire la personne elle-même finit par ne plus se reconnaître. Et les autres ne les reconnaissent plus. C'est une des caractéristiques. Il y a 3 grandes caractéristiques dans le burn-out. Mais je ne vais pas passer ma journée sur le burn-out. Donc, simplement sachez que c'est une maladie grave dont un tiers des gens ne reprendront plus jamais le travail. Donc voilà, ça c'est quand on va au combat. Et puis de l'autre côté, écoutez bien, on a 26% des salariés qui sont activement désengagés. C'est pas simplement je fais juste bien mon job puis je m'en vais. Non, je suis activement désengagée, c'est-à-dire que je dis moi pour sauver ma peau, parce que je vois tous ceux là qui vont au combat, ben moi je veux pas aller au combat. Donc je me désengage du travail. J'ai plus envie. D'abord tout ça n'a pas de sens pour moi, et en plus je m'y fais du mal. Donc les gens sont activement désengagés, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne viennent plus au boulot que pour en faire le moins possible. Et ils nous disent d'ailleurs, hein, quand on les écoute bien, ils nous disent « Moi, vous savez, maintenant j'en fais pour ce pour quoi je suis payé, pas plus. Et puis, je ne veux surtout pas me retrouver dans les conditions dans lesquelles on a vu partir telle ou telle ou telle personne. » Donc au milieu de ça, ce constat terrible, qu'est-ce qu'on fait quand on a presque 50% de la population ? Enfin, 51% même, qui effectivement soit met sa santé en danger, soit est complètement désengagé. Alors pour moi, c'est un bon argument, ça, je peux vous dire, pour faire bouger justement les directions générales. Parce que je leur dis, regardez autour de vous, vous avez plus de 50% de vos salariés qui ne sont pas efficaces. Alors là, ils me regardent avec des yeux comme ça. Je leur dis, bah oui, ceux qui vont au combat, il y a un absentéisme qui est en train d'augmenter, qui vous coûte cher. Il y a un turnover aussi très grand, c'est-à-dire que les gens démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et puis les autres, bah ils viennent, mais ils ne sont pas très efficaces. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. C'est-à-dire qu'on est là, mais on n'en fait pas beaucoup. Et donc, ça c'est un point important pour moi. Clairement, je leur explique que pendant des années, pour gagner en performance, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans les années 80-90, ils ont fait ce qu'on appelle du cost-killing. Ça veut dire quoi ça ? Ils ont coupé les coûts. Donc ils ont limité effectivement toutes les dépenses. On pourra gagner plus en performance. Bon, mais une fois qu'on a étranglé tous ces fournisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien la deuxième partie, ils ont étranglé leurs salariés par des process. Alors ça, c'est les années 2000. Alors là, les process, on en a eu de tous, hein, du Lean Management, Lean Manufacturing, Six Sigma, il y a tous des acronymes incroyables d'ailleurs, sur la qualité totale, etc. Ceci étant, je ne suis pas contre non plus tous les process, rassurez-vous. Je pense que c'est bien d'avoir des process, mais là, on a eu une avalanche de procédures, un excès de process. Ce qui fait que les salariés me disent, quand ils viennent au boulot, ils me disent, vous savez madame, on est obligé de laisser notre cerveau à l'entrée de l'entreprise, parce que de toute façon, il faut qu'on appuie sur un bouton, qu'on rentre dans le process et que dans le process. Où est-ce qu'on met notre intelligence? Et moi, de l'autre côté, je dis aux chefs d'entreprise, vous vous rendez compte, le gâchis d'intelligence, vous ne vous servez pas du tout de l'intelligence de vos salariés. Et c'est pour ça que j'en arrive maintenant à ma deuxième partie, qui est vraiment de dire bah, comment justement replacer l'homme au cœur de l'entreprise, et comment est-ce qu'on en a vraiment besoin et comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors c'est là qu'il y a un nouvel outil absolument magique qui est arrivé, qui s'appelle aujourd'hui la qualité de vie au travail. Donc vous voyez, après le cost killing, les process, aujourd'hui, moi je dis que là où il y a le plus grand gisement de performance pour les organisations, c'est effectivement dans la qualité de vie au travail. Alors attention. Attention, parce que qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail? Si je vous posais la question dans la salle, je suis sûre que vous auriez des idées différentes les uns les autres. Et c'est normal. Et pour beaucoup, la qualité de vie au travail, c'est le bien-être. Alors moi, je me bats contre le bien-être au travail. Vous allez vous dire, elle est gonflée, hein? Mais oui, je me bats contre le bien-être au travail. Parce que le bien-être, pour moi, c'est pas quand je suis au travail. Moi, le bien-être, c'est quand je suis avec mes enfants, quand je vais me balader, quand je fais des choses qui m'épanouissent à titre personnel. Et puis le bien-être dans les entreprises, aujourd'hui, c'est quoi? C'est du massage, c'est des cours de sophrologie, c'est de la méditation, c'est des salles de sport, c'est de la conciergerie, c'est tout ça. Et c'est tellement plus facile pour une entreprise de mettre en place ce type d'activité plutôt que d'aller traiter les vraies causes. Parce que quand on met du massage, on traite des symptômes. D'accord ? On traite effectivement, on a mal au dos, donc un petit massage, ça fait du bien. Et je ne suis pas contre tous ces éléments. Hein. La sophro, c'est très bien, ça marche bien, la méditation aussi, c'est très efficace. Mais écoutez-moi bien, ça c'est de la qualité de vie hors travail. Ça n'est pas de la qualité de vie au travail. Et c'est pour ça que, grâce à ma formidable équipe chez Better Human, on a décidé de ne pas être pour le bien-être au travail, mais nous, on est pour le être bien au travail. Alors là aussi, vous allez dire que je charrie peut-être un peu sur les mots, mais ça a beaucoup de sens pour moi. Parce que je pense que c'est parce qu'on est bien au travail et qu'on est bien dans son job qu'on peut faire un vrai travail de qualité. Et quand on fait un travail de qualité, on est fier de ce qu'on fait. Et à ce moment-là, bah effectivement, on a un vrai épanouissement au travail. Mais aujourd'hui, il faut effectivement développer ce être bien au travail. Alors, on a développé une méthode chez nous qui s'appelle la méthode, là encore un peu provocatrice, mais haute qualité humaine, HQH, parce que j'en avais marre d'être dans des entreprises où les gens étaient très fiers d'être dans des beaux bâtiments HQE, vous savez, haute qualité environnementale. Là encore, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise de s'occuper des murs, de s'occuper effectivement des sièges, et c'est important, je ne dis pas non plus que c'est pas à faire, plutôt que de s'occuper des hommes et des femmes. Donc nous, on a développé cette méthode HQH, qui est une méthode dont on dit bah, il faut être bien, mais être bien à 5 niveaux. Être bien d'abord dans son job, être en sécurité dans son travail, donc dans son environnement de travail, à la fois macroéconomique, à la fois avoir les moyens et les ressources pour bien faire son travail, être correctement formé aussi, régulièrement, pour avoir une employabilité. Parce que si demain je me retrouve sur le carreau, est-ce que je vais retrouver un boulot? Si je n'ai pas été formé, aujourd'hui tout va tellement vite, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Donc premier niveau, être bien dans son job, dans sa compétence. Deuxième niveau, être bien dans sa tête et dans son corps. C'est-à-dire être en bonne santé physique et mentale, mais ça veut dire aussi avoir un engagement, ce qu'on appelle émotionnel, limité. Il faut de l'engagement dans l'organisation, mais point trop n'en faut. Et le troisième élément très important pour la santé, c'est avoir une bonne autonomie. L'autonomie, et l'autonomie c'est essentiel. L'autonomie c'est évidemment la marge de manœuvre qu'on a pour organiser son travail, pour le faire, mais c'est aussi la capacité qu'on a à utiliser toutes ses compétences. La capacité à apprendre des choses nouvelles. C'est ça aussi l'autonomie. Troisième niveau, c'est être bien dans son organisation de travail. Alors là, on commence à toucher dans le dur, je peux vous dire, hein, parce que c'est là que sont les principaux problèmes aujourd'hui. C'est l'organisation du travail, c'est le contenu du travail. Ce sont les changements d'organisation. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui, pas une organisation qui n'est pas en pleine restructuration, refondation, fusion, déménagement, révolution quelque part. Toutes les entreprises se transforment en permanence. Le changement, c'est permanent. Et c'est là aussi que se discute la relation avec son manager N+1, au niveau de l'organisation du travail. Quatrième niveau, c'est effectivement être bien avec ses relations de travail. Et là, les relations, c'est essentiel. C'est l'ambiance de travail, c'est l'atmosphère de travail, c'est le respect, c'est la reconnaissance qu'il y a dans l'entreprise. Mais c'est aussi l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'est là aussi que se discute ce que j'appelle la reconnaissance. Et la reconnaissance, tu sais si c'est important, c'est la première chose aujourd'hui dont les salariés se plaignent, c'est de ne pas être suffisamment reconnus pour ce qu'ils font réellement. Et enfin, dernier niveau, cinquième niveau, c'est être bien avec sa gouvernance. C'est-à-dire, c'est le sens du travail, là. C'est pourquoi, effectivement, je me lève le matin. En quoi mon job est utile à la société? Quelle est la vision de mon entreprise? Quelles sont les valeurs qu'elle véhicule? Et est-ce que mon top management a effectivement de l'exemplarité? Et enfin, je terminerai par un dernier mot qui est essentiel aujourd'hui. C'est est-ce que tout le monde est traité sur le même pied d'égalité? C'est l'équité. Et là, clairement, vous voyez que nos cinq niveaux reprennent ce qu'on appelle chez nous les cinq S. Donc le premier niveau, c'est la sécurité, plus sûr. Le deuxième niveau, c'est la santé, donc plus sain. Le troisième niveau, c'est l'organisation du travail. Et c'est là où je dis qu'il faut faire plus simple, parce que, avec cette procédure aujourd'hui. Quatrième niveau, bah, c'est plus serein. Et puis le dernier niveau, c'est le plus de sens. Voilà comment nous avons défini, nous, la qualité de vie au travail. On l'a défini à partir d'un référentiel qui a été basé sur une base de données qu'on a de plus de 30 000 salariés qui ont répondu à nos questionnaires. Donc c'est pas juste que sorti comme ça de notre chapeau, c'est véritablement traité avec un certain nombre d'indicateurs. On a 22 indicateurs, 48 sous-indicateurs derrière le modèle que je viens de vous exprimer très très succinctement. Et à partir de ça, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire passer dans les entreprises, c'est de leur dire, on peut travailler différemment. Si justement on traite cette qualité de vie au travail, si on la pilote de façon intelligente, à ce moment-là, on a un vrai gisement de performance. Et quand on tient compte de tous ces éléments, quand on tient compte de ce facteur humain, eh bien on a de bien meilleurs résultats. Et aujourd'hui, très clairement, je vais vous donner deux résultats, deux chiffres. Je ne vais pas vous assassiner de chiffres. Le premier, c'est que quand on fait de la prévention, ce qu'on appelle de la santé physique, dont je vous parlais au départ, ben quand on investit 1 euro en prévention de la santé physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gestes à former les gens au SST, aux gestes des premiers secours, ça veut dire s'occuper de sécurité incendie, de sécurité routière, c'est tout ça, hein, la protection de la santé physique. Quand on investit 1 euro, on a un retour sur investissement de 2 à 4 euros. C'est déjà pas mal. On n'est pas perdant en faisant de la prévention. Mais quand on investit sur la prévention de la santé mentale, quand on investit sur la qualité de vie au travail, quand on investit 1 euro, à votre avis, quel est le retour sur investissement? 5, 10, 13 euros. On a une très très belle étude qui date de septembre 2014, qui a été faite par l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, pardon, qui effectivement explique bien qu'on a 13 euros de retour sur investissement pour 1 euro investi. C'est pas génial, ça? Donc moi, quand j'arrive dans les comités de direction, je passe 30 à 40% de mon temps dans les comités de direction. Et que je leur explique ça, ils ouvrent des yeux, mais ils sont scotchés. Et je leur dis, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Vous qui attendez de la performance, là je vous en apporte, qu'est-ce que vous attendez pour lancer la qualité de vie au travail? Et là, effectivement, ça les interroge. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette qualité de vie au travail, non seulement elle remet du lien entre les gens, parce que toutes les problématiques des constats qu'on a vus précédemment, qui fait que les gens vont pas bien, sont dans le combat ou sont dans le retrait total, c'est la principale problématique. Le cœur de la problématique, je dirais même la cause racine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours traiter les causes. La cause racine, c'est le manque de dialogue. Les gens ne se parlent plus dans les organisations. On n'a pas le temps. On s'envoie des mails, on ne se voit plus. Et puis même, on ne se parle plus. On s'écrit sur des petits bouts de papier de temps en temps quand ce n'est pas des mails. Mais on ne se voit plus. Et même pire, quand vous m'avez demandé de venir pour parler de la relation humaine là, dans l'entreprise, je me suis dit... Je vais avoir du mal à le dire, mais tant pis, je le dis aujourd'hui, les jeunes générations en particulier, mais pas que, elles ont peur de la relation humaine. Elles ont peur d'aller parler avec les autres. Donc si on ne dialogue plus, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on a peur de l'autre. Et je peux vous assurer que c'est un des éléments que je vois très souvent, ces jeunes en particulier, ingénieurs ou sortant d'école de commerce, des gens très, très compétents, hein, avec un beau diplôme et tout, mais ils ne savent plus aller parler ni à des équipes ni à des ouvriers. Et ils me disent d'ailleurs, bon non, j'ai pas besoin d'aller les voir. Moi j'ai mon tableau Excel et ils font du management par tableau Excel. Ça vous fait rire, mais je peux vous dire que c'est terrible. C'est terrible parce que il se passe un grand écart aujourd'hui entre les gens qui font et les gens qui pensent. Et voilà, je me dis, on sait que ça marche, c'est-à-dire on sait que c'est rentable. On commence à avoir plein d'idées, plein d'actions à mettre en place effectivement pour pouvoir recréer du dialogue et on crée ce qu'on appelle aujourd'hui des espaces de dialogue sur le travail dans les organisations. C'est quoi ce truc-là? Alors, les espaces de dialogue sur le travail, par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'est ce que j'appelle les communautés de managers. Alors, les managers, ils bossent tous en silo, les uns à côté des autres, ils ne se parlent jamais entre eux, ils refont à chaque fois évidemment l'eau tiède, hein, parce qu'ils réinventent une solution qui a déjà été mise ailleurs. Donc là, on essaie de mettre un peu plus de transversalité, de refaire travailler les gens ensemble et surtout d'échanger les bonnes pratiques. Ça paraît basique. Moi, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je peux vous dire que l'entreprise a beaucoup perdu de bon sens, moi, je trouve. Donc, on remet en place, effectivement, des communautés de managers, on met des espaces de travail, des focus équipes aussi. On fait travailler les équipes ensemble sur le travail. Exemple, encore un autre exemple. On entend beaucoup de gens qui se plaignent sur la charge de travail. Et c'est vrai qu'il y a des gros soucis. Bah, c'est vrai, quand vous êtes une équipe de 10 personnes, tout d'un coup, vous ne vous retrouvez plus qu'à 6 pour faire le même job. Ben, ça marche pas. On peut pas y arriver. Donc là, on met en place des études réelles. On fait ce qu'on appelle un petit journal des tâches pour voir quelles sont toutes les tâches qui sont réalisées. Et puis, on fait travailler les gens vraiment ensemble, au début sans les managers d'ailleurs, qu'avec les équipes de base, sur trois choses. Sur simplement, qu'est-ce qu'on doit absolument conserver dans l'entreprise, parce que ça, c'est le cœur du métier de l'entreprise. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut qu'on continue à faire mais qu'on peut externaliser pour alléger la charge? Et enfin, troisièmement, qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Et c'est ça le plus difficile. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Parce que très souvent, j'allais dire, les gens continuent à faire des choses qui ne sont plus utilisées par personne. Moi, j'ai vu quelqu'un qui travaillait sur un tableau Excel hyper compliqué, ça lui prenait 4 heures par semaine. Et je lui dis, mais par qui ce tableau est-il lu? Alors là, elle m'a dit, bah, écoutez, c'est envoyé là, là, là et là. Très bien. Je lui ai dit, bah, écoutez, on va aller voir là, là, là et là. Donc je suis allée voir les gens en question. Et tout le monde m'a dit, ah, mais non, mais moi je m'en sers pas, je pensais que ça servait à quelqu'un d'autre. Et personne ne lisait son tableau. Personne. Donc vous vous rendez compte, ce monde de fous, effectivement. Mais, donc d'abord, je lui ai allégé son travail de 4 heures tout de suite, hein, ça a été facile. Je lui ai dit, vous arrêtez de faire le tableau. Sauf qu'elle m'a dit, ah ouais, mais moi j'avais une expertise dans ce truc-là, c'était mon savoir-faire, etc. et tout. Donc il faut faire attention à ça aussi, parce que les gens, ils ont ce qu'on appelle des tâches plaisir. Donc dans ce qu'on doit enlever, il ne suffit pas que ce soit quelqu'un du haut qui arrive et qui dise t'arrête de faire ça. Parce que là, c'est des frustrations, là vous en créez plein. Donc il faut que ce soit négocié avec les gens. Mais quand c'est négocié avec les gens, ça marche beaucoup mieux. Et donc on arrive à voir en fait qu'il y a plein de choses qui sont faites deux fois dans les organisations. Puis il y a des choses qui ne sont pas faites du tout d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, ça c'est des éléments très concrets où on parle du travail. C'est pas compliqué, ça se fait de façon simple. Je voulais vous donner quelques petits exemples pour que vous voyez un petit peu ce que cela voulait dire. La haute qualité humaine, ça passe par là. Ça passe par des choses très simples, très concrètes. Alors, je vous rassure, hein, je n'ai et nous n'avons pas dans ma société l'envie de faire de l'eugénisme. On ne va pas rendre les gens de meilleurs humains. C'est pas ça, hein, la haute qualité humaine. L'objectif, c'est de permettre à chacun d'exprimer son talent le mieux possible et de se faire plaisir dans son travail, de retrouver du plaisir au travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, nous, qui viennent au travail avec plus beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est un problème. Alors, il y a quand même des gens qui vont bien. Hein. Je ne voudrais pas non plus parler que de ce qui va mal. Il y a des gens qui vont bien et il y a des boîtes qui vont super bien. C'est justement celles qui ont compris qu'il fallait mettre de la qualité de vie au travail. Celles qui ont compris qu'il fallait mettre du collaboratif, de la coopération entre les gens. Celles qui ont compris que tous les petits chefs, c'était terminé. Qu'il faut beaucoup plus de soutien dans l'organisation. Un manager, aujourd'hui, il doit être bienveillant, avec une bienveillance lucide, mais il doit surtout être un soutien pour ses équipes. J'arrête pas de dire, moi, aux managers que je forme, allez voir vos équipes, demandez-leur si elles ont besoin d'aide. C'est ça le rôle d'un manager aujourd'hui. C'est plus d'être dans le contrôle, la vérification, là, c'est fini, les machines font tout ça. Comment est-ce que vous motivez vos équipes? Comment est-ce que vous leur donnez juste envie de venir bosser chez vous et d'y rester? L'enjeu, il est là. Parce que les meilleures entreprises demain, ce seront celles qui seront capables d'attirer les meilleurs et de les retenir. Il n'y a pas d'autre enjeu aujourd'hui. Et quel que soit le niveau. Ça, c'est des choses qui sont vraiment révolutionnaires. On est en train d'assister à une réelle révolution managériale. Alors oui, c'est pas encore partout, hein, je vous assure. Globalement, on a entre 5 et 10% d'entreprises qui ont complètement pris ça en main et qui développent ça. Mais les grosses boîtes sont en train vraiment de se rendre compte qu'effectivement, elles perdent beaucoup d'argent. Et vous savez, malheureusement, c'est par l'argent qu'elles sont guidées, ces entreprises. Hein. Il n'y a pas autre chose. Donc voilà, il faut les prendre aussi par là. Et donc, comme elles se rendent compte que ça coûte de plus en plus cher, ben, moi, je suis assez contente. Parce qu'aujourd'hui, ça va créer enfin un nouveau pacte social. On va enfin reparler du social, on va enfin reparler de l'humain dans les organisations. Un exemple concret, là encore. Dans les années 2010, après la crise de 2008, là, les directions des ressources humaines sont sorties des comités exécutifs des grandes entreprises. Globalement, toutes les directions des ressources humaines se sont retrouvées sous les directions financières. Mis à part quelques 4-5 grosses DRH avec des types très bien dans les 40 boîtes du CAC 40, mais même dans des tas de boîtes du CAC 40 que je connais bien, je peux vous dire que la DRH n'était plus au comité exécutif. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus seulement les DRH qui nous appellent, mais ce sont les directions de la stratégie et les directions générales. Alors pour vous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour nous, c'est un signe très important. Ça veut dire qu'enfin, le facteur humain est revenu au niveau stratégique. Alors, je vous avais dit que je voulais finir par des choses un petit peu positives, et que très clairement, ça me donne vraiment des envies d'espérer, et de bonnes raisons d'espérer. Et je peux vous assurer que quand on passe dans une entreprise et qu'on apporte nos outils et nos méthodes, on fait vraiment bouger les lignes. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après notre passage. Et ça, c'est important. Alors oui, parce que les entreprises me disent toujours, bon, c'est quand le résultat? Je veux un résultat immédiat. Alors moi, je leur dis, sur le main, vous n'aurez pas de résultat immédiat. Alors soit ils me disent, au revoir madame, très bien. Soit je leur explique, ben oui, vous allez avoir du résultat, mais il faut 2 à 3 ans pour que ça marche. Vous allez déjà avoir des premiers petits résultats sur des petites choses au bout d'un an, mais vous aurez des vrais résultats de modification de comportement, de management, de changement d'organisation du travail, d'amélioration des conditions de travail qu'au bout de 2 à 3 ans. On peut assez vite améliorer les conditions de travail. Quand on travaille dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de climatisation, c'est assez facile d'ouvrir une fenêtre. Voilà, ça va, c'est assez simple. Et il y a plein d'usines où les gens travaillent dans le noir. Hein. Moi, j'étais estomaqué de voir ça. Il y a des fois, c'est encore Zola. Hein. Et de l'autre côté, le deuxième élément qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, c'est le changement de mentalité des managers. Ça, c'est le plus compliqué. Arriver à faire transformer une façon de manager les gens. Pour ça, il faut qu'ils comprennent. Parce que si vous vous trouvez face à un manager qui manage depuis 10, 15, 20 ans, ben il pense qu'il fait bien, le gars, hein, ou la fille d'ailleurs. Et souvent, ils font bien, ils font avec ce qu'ils peuvent. Les 3/4 du temps en France, les managers n'ont pas été formés au management. Dans plus de 75% des cas. Le manager en France, c'est un très bon expert à qui on a dit, toi t'es bon dans ton job, on va te donner une équipe. Le gars, il aime peut-être pas du tout manager, il a aucune appétence pour ça, mais on lui dit, c'est pas grave, t'es un bon expert, donc tu vas être un bon manager. Et ben non, ça marche pas comme ça. Donc d'abord, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont, hein, et ils font plutôt bien, hein. Il n'y a pas quand même beaucoup de gens qui sont des vrais pervers narcissiques, mais ils font beaucoup de maladresse. Il y a beaucoup de méconnaissance du facteur humain, ils connaissent pas du tout les leviers sur lesquels fonctionne un être humain. Et ça, c'est catastrophique parce que ça crée effectivement des problématiques graves, de mauvaise ambiance de travail, de conflits récurrents et de choses de ce type-là. Donc il faut former les managers et il faut les former dans cette révolution managériale qui est le management par la bienveillance. Et je vous assure que ça marche. C'est absolument génial parce que ne serait-ce que de savoir dire merci à quelqu'un. C'est très concret ça. On ne sait pas dire merci dans notre pays. On ne sait pas. Pour avoir travaillé un peu chez les anglo-saxons, aux États-Unis, à l'inverse, on vous dit merci tout le temps. C'est presque même excessif, je trouve. Mais au moins, il y a de la reconnaissance pour toutes les personnes. En France, on a deux défauts principaux. On reconnaît la fonction, mais pas l'individu. C'est-à-dire, en gros, on vient vous serrer la main et vous dire bonjour si vous êtes un chef. Mais si vous êtes une pauvre assistante, on vous regardera à peine. Et puis donc, on ne sait pas reconnaître la contribution de chacun au travail. Ça, c'est le pire pour moi. Parce que quand je parle de reconnaissance, c'est que je dis aux gens, il faut dire merci, je leur dis, les gens, ils n'attendent pas que vous les brossiez dans le sens du poil. C'est pas du tout ça qu'ils attendent. Ce qu'ils veulent, c'est que vous reconnaissiez leur contribution au travail. C'est pas la même chose. Donc ça, effectivement, ce sont des choses qui sont en train de changer, en train de bouger. Ce qui est le plus important pour moi, je vous parlais tout à l'heure du dialogue en disant qu'on ne se parle plus. Il y a de moins en moins de liens, de plus en plus d'individualisme, parce que la société dehors, elle est beaucoup plus individualiste. Et donc on retrouve ça dans les entreprises. Et je dirais même plus, comment vous dire ça ? Les organisations sont aussi responsables, parce qu'elles ont mis en compétition les gens les uns contre les autres. Donc le collectif s'est complètement effondré. Même dans les usines, je peux vous assurer, il n'y a plus de collectif là-bas non plus. Et je pense que l'un des enjeux majeurs pour moi, c'est justement, et j'espère ne pas m'être trop éloigné de votre sujet de fond qui était la relation humaine, c'est justement de dire, et je finirai sans doute par là, de dire que le plus important pour moi, c'est de remettre du lien et de remettre de la relation. L'être humain est un homme de relation, il faut remettre de la relation. Mon temps est terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre extrême attention. Je vous ai trouvé très attentif. Et puis, je crois qu'il y a plein d'autres choses derrière, en tout cas.